Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta loi pénètre de plus en plus dans mon cœur et que ta volonté soit faite dans mon corps mortel. Je fais ce vœu par Jésus-Christ notre Sauveur, comptant sur ton secours et sur la grâce que tu promets dans tous nos besoins. Chaque jour, j'intercéderai auprès du trône de la grâce pour l'œuvre tout entière et tout spécialement pour la part dont j'ai le privilège de servir dans ce travail. Je prierai aussi pour les chers collaborateurs de tout partout ailleurs. Je promets de peser, de vérifier plus soigneusement encore, si possible, mes pensées et mes paroles et mes actions, afin d'être plus capable et plus digne de te servir. Ô Dieu, ainsi que ton peuple bien-aimé, je te promets, Seigneur, de prendre garde et de résister à tout ce qui a rapport quelconque avec le spiritisme et avec les sciences occultes, sachant qu'il n'y a que deux maîtres. Je résisterai par tous les moyens raisonnables à ces tentations-là, car elles viennent de l'adversaire. Je promets de me conduire dans la vie privée à l'égard des personnes du sexe opposé en tout temps et en tout lieu, exactement comme si j'étais sous les yeux du public ou en présence de l'Assemblée des enfants de Dieu. Autant qu'il sera raisonnablement possible de le faire, j'éviterai de me trouver seul dans la même chambre avec une personne du sexe opposé, à moins que la porte ne soit grande ouverte. En ce qui concerne la règle précédente, les parents selon la chair font exception. Merci.
Les résolutions du matin seront lues par le frère Blonsky-Philippe.
Mes résolutions de chaque matin. Je désire que ma première pensée au réveil soit la suivante. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel, lui demandant grâce et secours. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Psaume 116, 12 à 14. Je me souviendrai de cet ordre divin. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Psaume 55. Et je prendrai la résolution, avec l'aide du Seigneur et par sa grâce, d'accomplir mes vœux aujourd'hui envers lui, comme un saint de Dieu doit marcher. Doit le faire. Je continuerai le sacrifice de ma chair, de tous ses intérêts terrestres en vue d'obtenir l'héritage céleste et d'être co-héritier de mon Rédempteur. Je ferai tous mes efforts pour être humble et sincère envers tous. Je ne chercherai pas ma gloire personnelle. Je chercherai à plaire au Seigneur et je l'honorerai par ses paroles afin qu'elles soient aimables et en bénédiction pour tous. Je m'efforcerai d'être fidèle au Seigneur, à la vérité, aux frères et avec tous ceux avec lesquels je serai en contact, non seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les petites. Me confiant à la protection divine et à la providence qui dirige toutes choses pour mon plus grand bien, je m'efforcerai d'agir en pureté de cœur et je mettrai de côté tout souci, tout mécontentement, tout découragement. Je ne murmurerai ni ne me plaindrai, quelles que soient les épreuves que le Seigneur pourra m'envoyer, car la foi peut se reposer avec confiance sur lui, quoi qu'il advienne.
Le commentaire de la manne d'aujourd'hui, du 11 juillet, sera lu par le frère Paul Gérard.
Quiconque est engendré de Dieu ne pêche pas, mais il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, 18. Aussi longtemps que le cœur, l'esprit, la volonté est sainte, en harmonie avec Dieu, avec la justice, c'est-à-dire aussi longtemps que la semence de notre engendrement, l'esprit de sainteté demeure en nous Le nouvel esprit ne peut approuver le péché, mais doit être et sera son adversaire. Quoique la plupart des combats soient à soutenir contre les membres de notre nature humaine, faible et déchue, contre leur appétit et leurs désirs, néanmoins, comme nouvelles créatures, nous sommes séparés et distincts de la chair. Ces faiblesses et ces imperfections ne sont pas imputées à la nouvelle créature en Jésus-Christ, mais elles sont considérées comme couvertes et cachées sous les mérites du sacrifice du Rédempteur de notre du sacrifice rédempteur de notre Seigneur. Quiconque est engendré de Dieu ne pêche pas, et il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Jean 5, 18.
Une nouvelle journée s'ouvre devant nous. Faisons en sorte, dans un effort commun, que cette journée soit aussi agréable que possible. Dans cette communion fraternelle où les barrières de langage ont pu être contournées. Dans un même esprit, louons l'Éternel. Ayons également une pensée pour tous ceux qui n'ont pas eu ce privilège de se rendre en ce lieu. Certains d'entre eux nous transmettent leurs salutations fraternelles et là, plus particulièrement de notre assemblée de la Morlaix, les familles Soutric, Klejniak, Tchernek, Malina. Donc, se sont jointes à nous dans ce même esprit. Avant de commencer le sujet, je voudrais faire une annonce pour les adolescents. Donc, l'activité des adolescents qui doit commencer. On demande à ces adolescents de se rendre dans le hall d'entrée où les attendent leurs animateurs. Le premier sujet pour cette matinée sera traité par le frère Liberda Rudolph. Son titre, Un autre ciel, une autre terre. Le frère est prié de prendre place.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Un autre ciel, une autre terre. Dans Hébreux, premier chapitre, au verset 10-12, premier chapitre, verset 10-12, Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. En citant ces quelques versets, l'apôtre rappelle les paroles prophétiques du psaume 102, versets 26-27. Il se sert de ces paroles pour témoigner et confirmer la grandeur des pensées de Dieu ainsi que celle du Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Nous sommes entièrement en accord avec les témoignages de l'apôtre, bien que nous puissions nous poser une question, nous dire comment pouvons-nous mettre ceci en accord avec un autre témoignage de la Bible, disons que la terre subsistera toujours. Dans Ecclésia 1.4, Ecclésia 1.4, une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. D'une dispensation à l'autre, d'importants changements sont manifestés, mais la forme de la terre est restée pareille. Il est démontré dans divers ouvrages ou commentaires bibliques que les mots « cieux » et « terre » sont souvent utilisés dans la Sainte Parole comme un symbole, une image, mais aussi au sens littéral. Nous démontrons qu'au sens symbolique, il représente l'ordre des choses actuelles, soit les gouvernements politiques, qui sont plus ou moins insatisfaisants, injustes, qui doivent se dissoudre et laisser la place à un ordre nouveau basé sur la justice. Ce sont des idées de ce type que l'apôtre veut faire comprendre lorsqu'il emploie les mots « monde »,« terre » et « cieux ». Les paroles de l'apôtre Pierre sont identiques lorsqu'il s'exprime dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 10, au chapitre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Dans notre raisonnement, nous pensons que le globe terrestre était et sera toujours le support du monde, qui fut avant le déluge, qui est actuellement et qui sera lorsque notre Seigneur, comme roi, règnera et soumettra le tout au Père Céleste. À ce propos, la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, 24-28, confirme. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Si cette terre doit, avec ses œuvres, se dissoudre disparaître, laisser la place à autre chose, combien nos ambitions terrestres actuelles qui nous prennent temps et argent sont vaines. Dans Éphésiens 5, 16, l'apôtre dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Le processus de dissolution est en marche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Aujourd'hui, le monde est comme ivre des diverses influences politiques et religieuses. Celles-ci sont entrelacées comme les ronces et des épines. Elles s'entrepiquent car chacun veut construire sur son propre esprit et non avec l'esprit de Christ. L'apôtre nous dit aux Éphésiens 5, verset 18, soyez au contraire remplis d'esprit. Et l'esprit de Dieu est celui qui construit, console, guérit, nous tient éveillés. Si l'on revient au monde passé, celui existant avant le déluge, toute la société terrestre fut détruite, sauf la famille de Noé, celle qui a accepté la volonté de Dieu. Il en fit de même avec l'ordre spirituel, les cieux. Ceux qui avaient la mission de ramener l'humanité à Dieu ont désobéi en se mélangeant aux choses terrestres, entraînant le grave jugement de Dieu et la destruction par le déluge. Après le déluge, un nouvel ordre fut rétabli. Dans des conditions réorganisées, une autre terre, des autres cieux. Et de nouveau, l'apôtre nous dit qu'ils passeront avec fracas. Pourquoi ? Est-ce que le Créateur aurait fait erreur dans ses ordonnances ? Serait-elle injuste ? Non. La malédiction sévit toujours sur le monde. Satan, comme prince de ce monde, ne voudrait permettre à personne de s'approcher du Seigneur ou de Dieu. Il suggère constamment son vin, ses influences, des pensées agréables à notre chair, mais qui nuisent à notre esprit. Et tous ceux qui ne demandent pas l'aide du Seigneur sont entraînés à la dérive, vers le monde mauvais qui mène au fracas. Nous savons que lorsque Dieu fit la terre, Adam, créé à son image, était roi. Il devait dominer sur toute la création inférieure. Genèse 1, 26, 27. Pour ceux qui étaient des choses spirituelles, nos premiers parents reconnaissaient la plus haute autorité divine, la volonté de Dieu, qui donne la vie. Cette autorité qui sera et restera pour toute la création savoir l'obéissance à Dieu. Cette bonne et belle disposition fut instituée par notre Seigneur de quelle façon? Dans Jean 1, 1 à 5, un texte très connu nous confirme ceci. Lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Est-ce que ces paroles ont été changées? Non. Elles sont toujours valables, et même plus maintenant qu'au début. Le Seigneur est venu lui-même accomplir la volonté de son Père. Notre Seigneur a démontré et a éclairci les mystères de Dieu. Il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Ces ténèbres avec leur prince, doivent disparaître. Cette terre et ses cieux doivent, avec les œuvres qu'ils renferment, se consumer, se détruire, non pas le globe terrestre, ni son ciel. Souvenez-vous de David. Lui, fidèle à son Créateur, voulut construire une demeure à Dieu. Lisons dans Actes 7, 46 à 50, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Saint n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Ce texte reste symbolique. Il signifierait le retour de la faveur divine à la domination de Dieu sur toute la terre par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment Dieu détruirait-il son trône, le ciel, ou l'endroit qui doit être son marchepied? La terre. Au contraire, le Seigneur prépare en complétant son Église, premièrement, représentée par les nouveaux cieux symboliques. Deuxièmement, en réconciliant progressivement l'homme et la terre. Une pensée similaire est inscrite dans 2 Pierre 3, 13. Mais attendant, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Serait-il ici question d'une nouvelle galaxie, d'une nouvelle planète? Non. Mais d'un gouvernement spirituel où Christ, tête et corps, régneront. Sur la terre, la justice remplacera l'iniquité et l'injustice. Nous avons foi que le Seigneur agit déjà envers les siens et dès que l'Église sera glorifiée, que les cieux seront changés, il commencera son œuvre sur la terre, sur la nouvelle terre. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux qui seront semblables à ceux d'origine. Dans le royaume millénaire de notre Seigneur, chacun devra respecter les lois divines. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les hommes justifiés comprendront leur responsabilité envers Dieu. Ils lui rendront gloire et honneur ainsi qu'au Seigneur Jésus-Christ, qu'il fut toujours le bras droit de l'Éternel, son premier ministre, son représentant. Lui qui exécute le plan de Dieu en rétablissant toute chose au stade parfait. Ce sont les paroles que nous avons déjà lues dans 1 Corinthiens 15, 24 à 8. Dans Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2, 8, 1 et 2, nous lisons « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » Et dans Éphésiens 1:22, tout a été mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous lisons « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous puissent garder la foi en Dieu. Et pourtant, dans Luc 18:8, il est écrit ce qui suit. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le psaume 91 fait état des choses concernant les fidèles du Seigneur. Nous vivons dans un monde où la peste, l'erreur, sévit et essaye de nous contaminer par toutes sortes de moyens, et nous savons que le malin ne dorme pas. Il est subtil. Redoublant de fidélité, mais dans une foi pure, sincère, n'ayant pas l'esprit qu'avaient certains, bien qu'ils faisaient partie de la famille de la foi. Lisons dans Matthieu chapitre 23, verset 27, dans Matthieu chapitre 23, 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Nous n'avons pas à juger qui que ce soit, mais ces paroles, parfois, nous faire réfléchir dans notre comportement chrétien. Aujourd'hui, plus qu'avant, ne soyons pas comme certains meubles ou ustensiles qui prétendent être faits de bois massif et coûteux, mais n'essayons pas de les limer ni de les raboter. Le support bon marché réapparaîtrait aussitôt. Car ce n'est que du plaquage. Et nous savons que le plaquage consiste à recouvrir par collage un bois ordinaire ou un aggloméré d'une mince plaque de bois d'essence plus noble, noyer, palissandre, acajou, chêne, merisier, etc., etc. Les chrétiens abondent en personne, revêtus d'un plaquage de piété. Extérieurement, elles se distinguent mal des chrétiens véritables. Leur conduite est honorable. Elles fréquentent les offices religieux, donnent à des œuvres de bienfaisance, mais tout cela est superficiel. Et en y regardant d'un peu plus près, la vraie nature apparaît. Les épreuves remplissent le rôle de la lime ou du rabot. Pour faux chrétiens de ce genre, dès que survient une difficulté dans laquelle la foi, l'amour, la piété, la patience devraient se montrer, crac, voilà, la mince couche religieuse qui disparaît. Les bases de la vie spirituelle, les relations conscientes avec Dieu par le Saint-Esprit, source de cette vie, ne sont pas là. C'est le fond naturel, un moment caché par des moyens artificiels, qui fait son apparition. Et pourquoi? cette forme de piété dont souvent nous aimons nous revêtir, parce qu'elle est généralement appréciée. Nous ne pouvons pas sonder les cœurs. La religion fait partie de la vie sociale. Elle constitue, dans certains milieux, une recommandation. Mais que Dieu pense de ce vernis de piété? Peut-il s'en contenter? Absolument pas. Il veut la vérité dans l'homme intérieur. Souvenons-nous, lorsque le Seigneur discutait avec la Samaritaine dans Jean chapitre 4, versets 23-24, nous lisons « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En général, l'homme n'aime pas que le regard de Dieu plonge au fond de son cœur. Pour se soustraire à ce regard qui le gêne, le pécheur se cache sous un manteau religieux, mais non sur la robe du Rédempteur. Il se sentirait responsable de la salir. Où est le remède à ce mal mortel? Dans les Écritures, l'apôtre Paul nous donne un grand exemple. Lui, pharisien, fils de pharisien, comme il est écrit dans Actes chapitre 23, verset 6, ayant rencontré le Seigneur, a compris sa misère. Dès lors, rendu humble et vrai par sa conversion, il donne une preuve de sa droiture, de sa puissance, de la grâce en lui, en s'attribuant le titre du premier des pécheurs. Nous lisons cela dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. À un autre endroit, ce même apôtre donne un exemple de notre comportement chrétien. Et nous pouvons lire au 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15. Chapitre 3, versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elles se révéleront, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Si dans les derniers jours, il est dit qu'il y aura des temps difficiles, pourquoi ? Pour le véritable chrétien, le prince de ce monde ne s'attaque point aux siens, mais à ceux du Seigneur. Nous vivons dans les derniers jours, dans le dernier temps. Revêtons-nous de toute l'armure que l'apôtre Paul nous soumet en Éphésiens chapitre 6. Plus notre Seigneur nous met en garde dans Matthieu chapitre 24, verset 24, en disant, 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.